trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Évalue ta com-neuve au com-neuve.com.
7h55, Mathias, qu'est-ce qui se passe dans le trafic?
Un peu d'attente pour l'accès au pont Pierre-Laporte direction nord depuis la 73, sinon ça circule bien.
C'est l'heure du pit stop. 30 minutes de sujets préparés, de textes appris par cœur, de rires en cœur et d'opinions préfabriquées.
Mais, je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe?
Ben non. C'est une joke. C'est une discussion où on met nos tripes à la table. Des sujets qui font réagir le Québec, qui rassemblent, parfois qui divisent.
Hashtag sans filtre.
Une pensée pour...
Voici le pit stop.
On m'en souvenait.
Une pensée pour ce qui s'est passé vendredi. Les gens qui ont vécu cette tragédie-là, ça devait être assez traumatisant. Je pense aux blessés aussi dans l'aventure. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de bulletin médical à savoir si l'individu qui a reçu des balles, on parle de 2 à 3 balles, si il est toujours en vie. Je pense qu'il serait en vie, c'est ce qu'on nous mentionne.
Si on nous a pas annoncé son décès, normalement cet homme-là est en vie, malgré le fait qu'il ait reçu 3 balles par le fugitif. Comme disait Roger, une des choses qui explique le fait qu'on n'aille autant pas d'informations, c'est que le Bureau des enquêtes indépendantes s'est saisi de cette affaire-là.
Denis Gravel, salut! Comment vas-tu, cher ami?
Ça va bien, vous autres?
Oui, ça va bien, ça va bien. Vendredi soir, moi, j'ai vécu cet événement-là de Montréal. Toi, tu l'as vécu sur les réseaux sociaux. Ton chum Éric Sauvé qui t'a appelé?
Ben oui, qui m'envoyait de l'information que j'avais de la difficulté à croire, pour être bien honnête avec vous autres. Parce qu'on a toujours le même maudit réflexe à Québec, hein, de se dire, ces affaires-là, c'est pas ici que ça arrive, c'est ailleurs. Puis de voir les images et même de déjà juste d'entendre le récit que des gens ont abandonné leur voiture sur le pont Laporte et se sont mis à courir. On dirait qu'on est d'un film de Spider-Man, tu sais, c'est pas des choses qu'on imagine dans notre ville. Puis habituellement, quand il y a des événements qui sortent de l'ordinaire, très rapidement, c'est les rumeurs les plus folles qui s'emparent des réseaux sociaux, entre autres. Mais à peu près tout ce qui a circulé s'est confirmé, puis c'est peut-être ça qui a été le plus surprenant dans la soirée de vendredi. Oui, du monde était en panique. Oui, il y a eu une fusillade. Oui, il y a eu une poursuite. Tout ça est arrivé. Ça a été une nuit de vendredi à samedi complètement folle. C'est pas pour rien que c'est la première fois que ça arrive depuis la naissance du pont Laporte, là.
En fin de semaine, il y avait 2 sujets, surtout samedi, c'est le trafic sur le pont Pierre-Laporte, puis l'identité du tireur. Semblerait que c'est super important d'avoir l'identité du tireur, et ce, très rapidement. Il y a des gens qui vont de leurs hypothèses. Moi, je vais attendre qu'on nous libère l'identité du tireur. Puis on n'en a pas parlé en détail avec Roger, là, mais souvent, quand il arrive ce genre d'événement-là, la personne qui décède, que ce soit le suspect ou encore les gens qui ont été victimes, ben il faut informer toute la famille avant de libérer le nom de la personne qui est impliquée, comme quoi elle est décédée. Puis visiblement, ça devrait être fait aujourd'hui. Mais ce que Roger Ferland nous disait, j'imagine que tu étais à l'écoute, il disait, parce que le Bureau des enquêtes indépendantes est entré dans le dossier, il y a 7 enquêteurs qui ont été affectés, donc 7 enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes, parce qu'il y a mort d'hommes impliquant une poursuite policière, des policiers qui étaient là. Fait que c'est peut-être pour ça que ça retarde un peu le processus.
Je remarque à quel point on n'est plus habitué d'attendre. Hein? L'actualité, on veut de l'instantané, on veut toutes les réponses tout de suite. Puis moi, le premier samedi, je faisais de la voiture avec les kids, puis je m'attendais que dans le courant de la journée, on ait beaucoup plus de détails sur qu'est-ce qui a motivé cet individu-là à vivre la soirée qu'il a vécue vendredi soir. Puis, tu sais, veux pas, nous autres, on s'est tous posé les questions. Là, je veux dire, le parcours qui a fait en sorte que ça a fini de même pour cette personne-là. Fait que t'as hâte de connaître l'identité, t'as hâte de connaître les motifs, t'as hâte de voir qu'est-ce qui a parti la patente. Mais là, on est lundi matin, on n'a pas beaucoup d'informations supplémentaires. On n'est plus habitué à ça, hein, attendre après les détails. Même, je veux dire, on a eu la même réflexion la semaine dernière quand on est revenu sur la tuerie à Montréal, alors que l'évidence balistique a confirmé que la policière avait pas tiré sur le civil, tu sais, la journée même.
T'es-tu vraiment sûr, Denis Gravel?
Hey, je suis pas le chef du Parti vert, moi, là. Un peu de calme. Ouais. Mais tu sais,
les gens sont rapides. Les gens sont rapides avec les complots, là. Puis le monde va pas bien, là. Tu sais, en fin de semaine, là, je lisais sur les réseaux sociaux. Puis les gens... Là, c'est terrible ce que je vais dire, Denis, j'en suis parfaitement conscient, mais les gens voudraient donc bien que ce soit un noir qui est tiré, ou encore un arabe, un produit de l'immigration, un réfugié. Ces gens, il y a des gens qui vont pas bien. Moi, que ce soit un Tremblay ou que ce soit Mohamed qui a tiré, c'est épouvantable, c'est une tragédie.
Ben, il y a des gens qui... avant de regarder les faits, veulent juste quelque chose pour prouver leur narratif.
Exact.
Alors que, toi, ce que tu penses des ethnies, j'en ai rien à branler, là. Je veux dire, là, on a une histoire qui fait en sorte qu'on a une personne de décédée puis une personne qui est blessée, avant de penser à servir un narratif. Puis ça, il n'y a pas juste nous autres qui est comme ça, hein, au Québec. Je veux dire, tu sais, avec l'histoire de Charlie Kirk aux États-Unis, là, qui a été abattu alors qu'il était en train de donner une conférence, dans la journée même, tu avais des républicains et des démocrates qui s'engueulaient sur les réseaux sociaux à savoir qu'est-ce que ça prouvait ce qui était arrivé, que la droite était rendue intolérable ou que la gauche était rendue intolérante. On peut-tu se garder un 24 à 48 heures avant de servir un narratif ou un autre? Puis là, les gars, vous m'aimerez pas. Mais je trouve qu'Éric Duhaime a manqué de classe. Je trouve qu'il a manqué de flair politique en fin de semaine. Puis je pense que sa sortie, il aurait dû attendre un petit 48 heures pour se poser la question à savoir est-ce qu'il faut vraiment sortir à ce moment-là? Parce que, tu sais... Dans la position politique où Éric Duhaime se trouve, c'est d'aller convaincre des indécis. C'est de rassurer des gens qui trouvent que des fois, les conservateurs sont un peu, comment dire, extrêmes et absolus dans leurs propos. Puis, j'ai trouvé qu'en fin de semaine, puis ça arrive souvent avec Éric Duhaime, la switch qui s'est mise à on, c'est la switch de chroniqueur radio et pas la switch de politicien, tu sais.
Est-ce que tu as eu le même réflexe?
Oui, vas-y.
Est-ce que tu as eu le même réflexe quand on a passé un projet de loi parce qu'il y a un jeune homme qui est mort? Le jeune homme était TDAH, puis il a pris du Red Bull avec ses médicaments, puis il est malheureusement décédé. Puis on a fait un projet de loi. Est-ce que tu as eu le même réflexe quand la loi Gabi Renault est passée, une femme qui s'est malheureusement faite battre par son conjoint puis qui en a perdu la vie? Tu sais, c'est de la maudite politique sale, mais tous les politiciens font ça, puis il n'y a rien de pire qu'un politicien qui a déjà fait ça, qui déplore qu'un autre politicien ait fait ça.
Ils font tout, mais ça fait pas que c'est mieux, je trouve. Puis j'écoutais vos explications plus tôt dans l'émission, puis les exemples que vous amenez, je les trouve importants, tu sais, mais ça se fait sur une longue période de réflexion, de pression. Souvent, les proches des victimes sont impliqués lorsqu'on fait des sorties politiques de cette façon-là. Là, je trouve que dans ce dossier-là, c'est comme Éric Duhaime qui était sur le pont puis qui a vu une opportunité de redire que c'était important le troisième lien. Même si sur le fond, il n'y a pas tort, je trouvais que c'était pas le moment. Tu aurais
préféré qu'il y ait quelques heures qui passent.
Quelques jours. Peut-être même. Oui, je te le dis, Yann, parce que la prudence, je trouve que la prudence est de mise. Tu sais, le sang n'a pas fini de sécher sur l'autoroute, puis déjà on est sorti, puis là, ça prouve que ça prend un troisième lien. Ouais, mais c'est la première fois en 100 ans que ça arrive, là, une affaire de même. Là. Moi, qu'on fasse l'apologie d'un troisième lien pour régler des problèmes de trafic et de circulation, je veux bien, mais qu'on utilise l'exceptionnel et le dramatique pour essayer de faire du chemin là-dessus, je pense que tu rassures ta base en faisant des choses comme ça, mais je pense que t'éloignes les gens qui sont peut-être moins sécures à voter pour les conservateurs. Je sais pas si je m'exprime comme faux, là, mais en politique, dans la position où Duhaime se trouve présentement, faut que t'aies de l'air de quelqu'un qui accueille des gens qui sont pas complètement convaincus. Puis en fin de semaine, moi j'ai trouvé que ça faisait un petit peu militantisme mal placé.
J'ai fait un sondage extrêmement scientifique là, parmi mes auditeurs et les auditeurs de Jeff. 100% des gens étaient d'accord avec la sortie d'Éric Duhaime.
Ouais.
La maudite droite.
Ben, je sais, je t'ai
la maudite
dit,
droite. La maudite droite toxique.
Non, mais ça m'a surpris. Ça m'a surpris, puis en même temps, bien, c'est intéressant de savoir que les gens dans la région de Québec, t'es au-delà de la tragédie, Ils se disent un peu comme... ils se disent, ben c'est juste un pont à construire.
Mais tu sais quoi, je pense, qu'il y a de bons arguments des deux côtés.
Oui,
vas-y, Denis, en terminant.
Ouais, ben je serais juste curieux parmi les gens qui ont répondu à ta question de sondage, est-ce que c'était des gens déjà convaincus et de la nécessité d'un troisième lien et qui allaient voter conservateur aux prochaines élections? Moi, c'est peut-être plus dans la table des indécis, rappelons-le, un Québécois sur deux présentement. Est-ce que la prise de position d'Éric Duhaime en fin de semaine vous a convaincu, un, de la nécessité d'un troisième lien, ou deux, de voter conservateur? C'est peut-être là que je suis moins sûr.
Dans tous tes angles morts et tes zones grises, ça me gosse, ces affaires-là.
Moi, je suis parfaitement d'accord avec les auditeurs qui sont d'accord avec moi. Ah non, je travaille pas pour la bonne station.
Ah, c'est bon, ça!
Ah merde, ouais. Je travaille pas pour la bonne station de radio!
Je suis parfaitement d'accord avec les auditeurs qui sont d'accord avec moi.
Exactement!
Ouais. Ben, t'as trouvé le nouveau slogan de la station, je pense.
Oui, ben oui, ben du moins le slogan de mon émission, parce qu'on a toutes des émissions qui sont différentes, puis c'est la beauté de cette station-ci. By the way, c'est demain qu'on annonce les deux grosses têtes qui se joignent à nous sur Boulevard.
Ben oui.
Donc, très content que tu fasses partie de l'aventure, Denis. On va te parler tout de suite après dans le Pit Stop. Mais peut-être qu'on fera, si t'es capable de le faire, bien entendu, peut-être que tu seras avec nous dès 7h30 pour l'annonce avec Steven et toute la gang.
Ben écoute, moi de toute façon, je suis branché, je vous écoute à partir de 7h15 avec mon petit café, mes petites affaires. Fait que si tu ouvres mon micro, habituellement, je vais être là.
Ah, parfait. Fait qu'on fera des petits tests des fois de ce qu'on peut entendre chez toi.
Vu que tu ouvres la parenthèse, c'est que j'ai réfléchi à ça cette semaine, ouais. Hein, parce que j'ai un module chez moi avec des volumes. Pour les gens qui écoutent, je sais que la qualité sonore est exceptionnelle, mais je vous explique, on vous explique le tour du magicien, là, mais je suis dans ma chambre présentement, à la maison, installé avec un module puis une console. Et quand le technicien extraordinaire, Jean-Sébastien, est venu me poser mes affaires, il dit le plus compliqué, le plus simple, c'est de laisser tout ça à on. Tu sais, déplogue rien, défait rien. Puis à un moment donné, je me suis dit ouais, mais c'est parce que mettons que j'ai des activités nocturnes, hein, ouais. ça peut nous arriver ouais. En tant que célibataire actif par exemple. Et que le volume de mon micro est ouvert parce que j'ai rien débranché, ben il suffirait que quelqu'un de bien avisé soit à la console de Boulevard 102.1, monte les volumes, puis que je me ramasse en train de faire un feu d'artifice live à Boulevard de nuit. Là.
Je dirais que ça pourrait s'apparenter à une game de tennis féminin.
Ouais, c'est ça, une partie game de tennis féminin. Puis une partie pour ceux qui ont vu le film de Punisher qui imite Spider-Man.
Tout est parfait. Deuxième sujet maintenant, la fameuse mobilité.
Bref, bref, essayez-les pas à cette heure, je me déconnecte. Je vais juste refermer la parenthèse. Là.
La fameuse passe mobilité du PQ va creuser un trou dans le portefeuille du PQ. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont mentionné, mais c'est dans le portefeuille des Québécois. Moi, je vais te dire une chose, j'ai toujours été pro-transport en commun, puis pour les pauvres, jusqu'à un certain montant, je leur paierais le transport en commun sans aucun problème.
Ben, c'est ce que la Ville de Québec fait à l'heure actuelle là, avec le supplément. Là. Ça marche un peu comme le supplément au logement.
Ouais.
Selon ton revenu annuel, là, ils vont te payer une partie de la part.
Moi, je suis pour ça. Ça devrait être comme ça à la grandeur du Québec. Le jour où les sociétés de transport en commun vont arrêter de faire des déficits, là, j'aimerais que ce soit ça un peu partout. Mais la passe mobilité du PQ, ça pourrait creuser un trou de 77 millions de dollars, Denis. Et eux, ben, ce serait applicable à tout le monde, de ce qu'on comprend. Donc, la formation politique promet des économies à tous les usagers des transports collectifs qui paient un tarif mensuel de plus de 95 $. Donc, un usager de Montréal pourrait payer 15 $ de moins par mois. À Québec et Lévis, l'économie serait de 20 $. Longueuil et Laval, 75 $. Et pour ceux qui vivent un peu plus en banlieue, là, ça pourrait aller jusqu'à même 186 $ dans le secteur de Saint-Hyacinthe. Mais quand même, est-ce qu'on est prêt à casquer le 77 millions de $ par an avec ce que le PQ veut mettre en place?
Tu sais, on entre dans le monde merveilleux des priorités gouvernementales. Le transport en commun, moi, de mettre ça le plus accessible possible, quitte à le mettre gratuit pour une certaine tranche de la population, fondamentalement, que ce soit une idée de gauche ou de droite, je suis d'accord avec ça à 200%. Qu'une passe te permette de prendre le métro à Montréal une fin de semaine que tu t'en vas virer à Lille, puis après ça, de prendre ton autobus sur une base quotidienne, puis de reprendre un autobus au Saguenay quand tu vas voir tes parents ou la famille, je suis d'accord avec ça à 200%. Ça devrait être fait depuis des années, à mon humble avis. On fait du rattrapage présentement. Par contre, on doit garantir, puis ça, ça devrait faire partie de la promesse. On vous promet qu'on va changer les lois et qu'on va faire en sorte que le transport en commun devienne ou redevienne un service essentiel. On ne pourra plus jamais prendre ça en otage dans une grève, puis on va imposer en tant que gouvernement le fait que le service va être garanti. On a eu des problèmes à Québec quand est venu le temps de négocier avec les chauffeurs, entre autres, puis les mécaniciens à un autre moment donné. Si tu veux que ton transport en commun soit pour le plus grand nombre de personnes possible, entre autres pour enlever un peu de trafic, mais aussi pour faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer dans ta ville, autant les jeunes que les plus vieux, que les pauvres, que les moins nantis, puis ainsi de suite, faut que tu garantisses que ce service-là va être là 24/7, quoi qu'il arrive. Puis ça, je trouve que présentement, c'est un angle mort duquel on ne s'occupe pas suffisamment, tu sais. Mais l'idée de base de dire passe universelle, ça ne devrait pas être compliqué. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. On a manqué une opportunité de le faire ici, dans la région de Québec. On aurait pu être des précurseurs, des visionnaires même, parce que ça aurait été fait depuis 10-12 ans, mais ça, c'est une promesse. J'aimerais ça que les autres parties rapidement récupèrent ça puis disent « Ouais, nous autres aussi, le transport en commun de cette façon-là, ça va devenir une priorité pour nous autres. » Je pense que c'est important. Au Québec, là, que tu sois en mesure, hey, on est tout petit, là, que tu sois en mesure de prendre l'autobus ici ou à Montréal ou à Sherbrooke ou au Saguenay, pour moi, c'est la base de la base, là.
Je te pose la question, puis je pose la question aux auditeurs aussi qui pourraient nous envoyer leurs commentaires au 418-971-1021. C'est la responsabilité de qui de s'établir près d'un transport en commun efficace ou que ce soit la Société de transport de Québec d'aller rejoindre des gens qui sont en périphérie de Québec? C'est la responsabilité de qui? Tu sais, moi, quand je suis allé au cégep, j'ai pris une chambre à côté du cégep. Ben, y avait mon bureau aussi qui était le Pop d'Elzy, là. Mais j'ai pris une chambre à côté du cégep. Fait que j'allais au Pop d'Elzy. Puis une fois de temps en temps, quand j'étais sous, j'allais au cégep juste à côté. Mais je savais que là, j'étais bien desservi. Il y avait une épicerie pas loin. Il y avait des restaurants pas loin. Il y avait un dépanneur pas loin. Tu sais, si tu... Puis là, je donne un exemple là, grossier, là. Si j'ai des enfants, puis je sais qu'ils vont avoir besoin du service de transport en commun, si je m'établis à Sainte-Brigitte-de-Laval, je n'ai pas d'affaire à faire une plainte au service d'autobus ici à Québec. Là. Tu comprends? L'autobus de mes enfants n'arrive pas à Sainte-Brigitte-de-Laval et qu'elle passe pas 25 fois par jour. C'est atroce. Là, venez chez nous, j'ai besoin de service.
Il y a deux catégories d'individus dans le monde. Hein. Il y a des gens qui exigent sans réfléchir, puis il y a des gens qui vérifient puis qui sont prévoyants. Mettons que je pars en voyage à Boston pour une fin de semaine, la première chose que je regarde, moi, c'est est-ce que je suis à proximité d'une station de métro? Pourquoi? Parce que un coup que mon char est parqué, je veux plus m'en servir, puis aussi parce que je veux être à distance de marche d'une station de métro pour être capable de me déplacer où je veux, quand je veux. C'est la première affaire que je regarde à chaque fois que je pars en vacances pour me booker un hôtel.
C'est responsable.
Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, d'ailleurs. Oui, puis je pense que tu fais un choix de vie. Quand je suis arrivé à Québec, c'est une des premières choses que j'ai regardées. D'être en mesure d'être le plus proche possible de mon milieu de travail parce que le seul char que j'avais était en train de me lâcher, puis je regardais les autres alternatives. Faut que je sois capable de me rendre en vélo, mais je suis peureux à Québec. Je trouve qu'on n'a pas de place, fait que je prendrais pas mon bicycle. Le RTC passe-tu dans mon coin? Ça, c'est des choses de base. Fait que j'imagine que n'importe qui fait un choix de vie en fonction d'un emploi, en fonction d'un beat de vie, en fonction de choix économiques, ben déjà, t'as vérifié ces choses-là, puis je suis d'accord avec toi. Je veux dire, quelqu'un qui s'installe à Sainte-Brigitte-de-Laval, puis après ça, ben exige que le service aille le chercher en avant de chez eux, c'est quelqu'un qui a pas vérifié ses affaires ou qui fonctionne un peu à la pensée magique et au nombrilisme. Là. Je comprends qu'il faut étendre, puis qu'on a un territoire étendu, mais le RTC pourra jamais faire de miracle non plus, là, tu sais.
Non, c'est ça. Mais dans la vie, là, en société, au Québec, là, il y a des gens qui payent énormément d'impôts puis qui ne reçoivent pas grand-chose. Puis il y en a qui n'en paient pas d'impôts puis qui reçoivent tout. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ne paient pas d'impôts, qui reçoivent tout, qui veulent justement être rejoints quand ils sont en région éloignée. Plus de responsabilités individuelles, les amis. Tu as besoin du service de transport en commun, va sur des artères, une artère principale, puis c'est sûr et certain que tu vas être bien desservi. Mais... puis en même temps, ben, c'est sur ces artères principales-là qu'on doit bâtir en hauteur, Denis, à Québec. Un peu comme on le fait là, sur le boulevard Laurier. Il y en a qui disent, tabarouette, il est où mon soleil, il est où? Mais les gratte-ciels commencent à pousser dans cette secteur-là, puis ça va être le réseau de transport de la capitale avec le tramway, ça va être extrêmement efficace, là.
Quelqu'un qui se demande en plein cœur de la ville où est mon soleil, ben moi, ça rentre dans les réflexions de hey, t'es à Sainte-Brigitte-de-Laval, t'as ton soleil, mais t'as pas ton RTC, là. T'sais, moi, ça rentre un peu dans la même catégorie. Tu t'installes en plein cœur de la ville, ça se peut qu'il te pousse un gratte-ciel d'en face à un moment donné. Mais pour le reste, tu sais, quelqu'un, il y a des exemples où la revendication est juste, par exemple. Tu sais, quelqu'un de Le Bourgneuf qui s'installe dans le coin de la station, qui s'installe dans le coin de chez Véro, puis qui s'attend à ce que le RTC soit capable de l'amener partout en ville en l'espace de 20 minutes, je trouve ça parfaitement légitime. Mais c'est pas ce qui arrive présentement. Tu sais, des gens de ce secteur-là qui prendraient pour acquis que c'est facile de se déplacer avec le transport en commun. Puis je prends cet exemple-là. Je sais qu'il y en a d'autres en ville, là, sur certains axes où ils sont très mal desservis. Moi, ces gens-là, ils ont un point, puis ils font bien de faire valoir leur point puis de faire entendre leur voix. Mais il y a une différence entre rester à Le Bourgneuf, rester à Sainte-Foy, puis rester à Sainte-Brigitte-de-Laval, tu sais.
On a une journaliste au Journal de Québec qui a décidé de faire le grand saut. À mes yeux, à moi, c'est une excellente journaliste, une très bonne communicatrice, une femme d'expérience. Elle se lance pour le Parti québécois. Son nom, c'est Stéphanie Martin. Le Parti québécois semble pas avoir de difficultés à recruter. Pour ce qui est de la Coalition Avenir Québec, c'est une toute autre histoire, Denis. Ce qu'on se rend compte, là, c'est qu'on pige dans le staff qu'on payait déjà pour se lancer aux prochaines élections. J'espère juste que ces gens-là ne seront pas payés pendant qu'ils sont qu'ils tentent de se faire élire dans leur comté, parce que là, j'aurais peut-être un petit deux minutes à te raconter. Mais dans le cas de Stéphanie Martin du PQ, je trouve que c'est une excellente candidature. Elle va se battre dans la circonscription de Vanier-les-Rivières. Elle est en position numéro 2 actuellement. Et le premier, ben, c'est le Parti conservateur du Québec qui est là, en Patrick Paquet.
On va avoir des belles luttes serrées dans la région de Québec. Puis ça, c'est une mosuse de bonnes nouvelles. Mais en même temps, le cynique que je suis peut pas s'empêcher de réfléchir au fait que les gens qui se garochent en politique, souvent... ils vont pas nécessairement avec les convictions, mais ils vont davantage avec le sentiment d'opportunité. Puis c'est pas nécessairement juste négatif. Tu sais, quelqu'un qui veut se lancer en politique, qui veut pas manquer son coup et qui veut faire partie d'un gouvernement et non pas d'une opposition, je comprends très bien le cheminement mental. Mais ce que je trouve drôle, c'est que présentement, personne veut porter l'étiquette de la CAQ, mais dans 4 ans, mettons, là, qui mène dans les sondages avec une bonne marge, ben là, comme par magie, il y a plein de gens, plein de journalistes, plein d'observateurs, plein d'Olivier Primo, qui est dur à rejoindre, lui, depuis une semaine, vont être en mesure de se lancer. Puis là, oups, là, soudainement, le même programme, les mêmes valeurs de la CAQ vont avoir plus de sex appeal dans 4 ans que présentement. Et les gens, tu sais, on le voit avec le Parti québécois. Le Parti québécois était presque mort il y a une dizaine d'années, puis c'était difficile pour eux autres de trouver des candidats. Il y a même des gens qui boudaient le Parti québécois pour se présenter du côté de Québec solidaire. Mais là, maintenant, ils mènent dans les sondages, et là, whoop, là, il y a des gens qui sont prêts à laisser des carrières pour dire « je me lance ». Puis en même temps, je le répète, me lancer en politique, personnellement, toucher du bois, là, ça arrivera pas, là, mais j'aurais aucun intérêt à faire partie de l'opposition. Moi, j'irais pour faire partie d'un gouvernement, pour faire avancer des choses en particulier, puis je verrais pas l'intérêt personnel à aller chialer à l'Assemblée nationale, alors que je peux le faire dans un micro 4 heures par jour, 5 jours sur 7, là.
Ouais, puis en même temps, je comprends les gens. Je vais prendre l'exemple de Stéphanie Martin, mais ça vaut pour plein d'autres exemples. Faut que tu laisses ta job.
Ben oui.
Tu te mets à l'avant-plan, tu te positionnes pour un parti politique dans la sphère médiatique, dans la sphère sociale. Alors, c'est une des raisons pourquoi tu attends de savoir si tu peux gagner, là.
Le hockey fonctionne de même. Hein? Il y a plus de monde qui veulent jouer pour le Canadien de Montréal depuis 2 ans. Bon, c'est parce qu'il y a des chances de gagner la Coupe Stanley. Ça fonctionne de même. Faut juste pas... Tu sais, j'ai quand même un petit côté... Ben en fait, peut-être que mon malaise de fond, c'est encore l'espèce de roue qui tourne. Média, politique, politique, média. J'aimerais ça qu'on... Il y en a trop. Présentement, il y en a trop. Puis ça me dérange un peu, personnellement.
Il y a quelqu'un qu'on connaît, toi et moi, je pense que tu le connais aussi, qui est en contact depuis déjà quelques mois avec Olivier Primo. Et ce qu'il m'a raconté, puis c'est le seul qui m'a raconté ça, c'est qu'Olivier Primo s'impliquerait en politique. Ce qui reste à déterminer, ça va être de quelle façon. Il va-tu faire un podcast politique ou encore il va se joindre à un parti pour tenter de faire élire ce parti-là ou d'aider ce parti-là. C'est une bonne idée de sa part de faire ça parce que c'est un gars qui a des actifs, il y a des entreprises, entre autres en ce qui a trait à l'eau. Là, c'est un de ses chevals de bataille. C'est ce qu'on nous mentionne. Il serait peut-être moins facile à rejoindre parce qu'il est en train de travailler sur un projet entre guillemets politique.
Quiconque a des ambitions politiques et des aspirations politiques devrait se lancer en politique dans un monde idéal. Je trouve que fondamentalement, on manque de politiciens de qualité. Je trouve qu'on manque de jeunes. Puis, j'essaie pas de diriger ça à gauche ou à droite ou dans le milieu. Je pense que quelles que soient tes convictions, c'est louable si tu te lances en politique. Je vais être le premier à applaudir si Olivier Primo se lance en politique. Moi, le feeling que j'avais, justement parce que c'est un homme d'affaires, c'est qu'il regardait les chiffres de la CAQ présentement, puis qui se disait vraisemblablement, je vais me présenter big pour la CAQ dans 4 ans. Le feeling que j'avais, c'est qu'il allait sauter son tour ce coup-là pour attendre justement l'opportunité, comme peut-être quelques-uns qui sont prêts à porter l'étiquette de la CAQ prennent la même décision présentement de dire, bon, là, François Legault, les 8 dernières années, quand bien même qu'on changerait le nom puis qu'on fasse semblant que ça n'a pas existé, ça va nous coller au derrière. On oublie vite au Québec, puis dans 4 ans, ben ce sera une bannière qu'on portera si on voit qu'il y a un besoin puis si on voit que l'opportunité d'accéder au gouvernement est plus accessible.
On t'écoute à 14h, Denis.
Ben j'espère, tabarnouche.
Puis on se reparle demain, si c'est pas 7h30, ce sera certainement 7h55, en vous rappelant que demain, vers 7h30, avec le directeur général de la station, Steven Croateau, on fera l'annonce de 2 nouvelles têtes de radio que vous allez entendre sur Boulevard. Puis c'est une très bonne nouvelle pour moi, c'est signe que les propriétaires sont toujours là pour tenter d'améliorer le produit. Puis on amène de l'expérience à la station et j'en suis très heureux.
J'ai pas le choix de me brancher, je suis pas au courant de rien. C'est sûr que je vais être là à 7h30, moi, là.
Bye, menteur.
Salut!
Denis Gravel, à qui on parle chaque matin pour le Pit Stop de 7h55 jusqu'à 8h25. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. On est là du lundi au vendredi. Sur la route, Mathias.
Ça se passe très bien.
Gravel, dans le retour.